Probablement en mode raccourci parce que j'ai pas envie d'être trop long ce matin, mais en même temps, j'avais vraiment sur le cœur de partager sur un thème qu'on a complètement brossé, amené, ce dont on a parlé ce matin. Et je voulais commencer en prenant ensemble ces trois versets dans Marc 3, Marc chapitre 3 et les versets 13 à 15. Donc si vous voulez ouvrir vos Bibles, c'est là-dedans. C'est tout simple et j'aimerais m'appuyer en fait sur ces trois versets. Je vais lire autre chose ce matin, bien sûr, mais je voulais m'appuyer sur ces trois versets pour rappeler, pour nous rappeler en fait une vérité de comment Dieu œuvre dans nos vies au quotidien. Et il me semblait important que dans ce temps d'été, on puisse aussi poser ce fondement-là et s'appuyer dessus vous savez, c'est le mastiquer, le méditer, qu'on ne s'attende pas qu'un message, là, il fasse tout dans nos vies, mais on attrape quelque chose et puis on a besoin de le mastiquer, on a besoin de le mettre devant Dieu, on a besoin de le mûrir dans nos propres vies. Et c'est vraiment ce type de message-là que j'aimerais vous apporter ce matin. Pas le sentiment de vous apporter une cuisine traiteur toute faite, mais de vous apporter quelque chose qui vous donne envie de mastiquer ça devant le Seigneur et de vous mettre devant Dieu par rapport à lui. Voilà, je vous ai laissé assez de temps maintenant pour trouver Marc 3, normalement. C'est assez facile à trouver. Marc 3, versets 13 à 15. Donc Jésus qui monte sur la montagne, et de là, il y a trois choses. Il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il appela ceux qu'il voulut. Et il vint auprès de lui, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Et j'ai vraiment envie qu'on s'appuie sur ces quelques versets ce matin pour nous rappeler un fondement, c'est le fait que Dieu appelle. Dieu appelle. Et c'est un fait. Et on voit ça dans toute la parole. Vous pouvez partir des plus vieux écrits de l'Ancien Testament jusqu'au plus récent du Nouveau Testament. Vous allez trouver le fait que Dieu appelle des hommes et des femmes en permanence pour l'œuvre dans son royaume. Il appelle de manière unitaire, il appelle de manière communautaire. Dieu appelle. C'est un fait. De la même manière que Jésus sur cette montagne appelle ses disciples. Ce que je trouvais important d'évoquer ce matin, c'est comment on gère cet appel dans nos vies. Si Dieu appelle et qu'on dit que c'est un fait, que Dieu est en train d'appeler tout le temps, comment est-ce qu'on gère ça dans nos vies? Et est-ce que ce qu'on doit faire, c'est y répondre immédiatement? Est-ce qu'on doit courir? Est-ce qu'on doit foncer dès que Dieu nous dit je te mets à cœur de faire quelque chose? Est-ce qu'on doit tout laisser et faire ça? Est-ce qu'on doit, à l'inverse, prendre du temps et peser ces choses-là pour qu'elles prennent du sens, pour qu'on avance avec sagesse, au risque d'éteindre peut-être le zèle d'une réponse qui est spontanée? Il est où le curseur là, entre ces deux choses-là? Et ce verset de Marc, en fait, qu'on vient de lire, il nous donne quelques clés pour comprendre ça. Il nous donne quelques clés pour comprendre quand on parle du fait que Dieu appelle dans nos vies, qu'est-ce qui se passe derrière. Et il y a trois choses, en fait, qui se passent. C'est que Jésus, il nous est dit, il appela ceux qu'il voulut pour les avoir avec lui et pour les envoyer. Et donc Dieu appelle, Dieu prépare et Dieu envoie. Et c'est le principe même de l'appel de Dieu. C'est ce que je voudrais qu'on se rappelle ce matin et ça va être vraiment simple, mais que je vous encourage à mastiquer et à mastiquer encore. Et ce principe-là, on va le regarder. Premièrement, je voulais qu'on regarde la vie de David parce que je trouve que c'est un bel encouragement pour ça. Et David, il a été appelé. Et David, son appel, ça a été de devenir le roi d'Israël, d'accord? Et il n'est pas devenu roi en jouant des coudes, ou alors parce qu'il a démontré ses capacités, ou alors parce qu'il était opportuniste à un moment donné. En fait, il est devenu roi parce qu'il a été oint par Samuel, parce qu'il a été choisi par Dieu pour ça. Il a été appelé par Dieu pour ça. Et on peut le lire hein, dans 1 Samuel 16, 11 à 13, je vais lire ça. L'histoire de quand Samuel en fait arrive chez Isaïe parce que Dieu a dit à Samuel, je vais choisir un nouveau roi, je vais retirer mon esprit de Saül et je vais choisir un nouveau roi pour Israël. Et ce roi-là, il est parmi les fils d'Isaïe. Donc va chez Isaïe, retrouve-le et je vais te montrer quel est le fils que moi j'ai choisi pour être roi. Et donc Samuel, il passe en revue là tous les fils d'Isaïe. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez l'histoire. Et puis parmi tous les fils que Isaïe a présentés, il n'y en a aucun sur lequel le Seigneur atteste dans le cœur de Samuel, oui, c'est celui-là que j'ai choisi pour roi. Et donc Samuel, il dit à Isaïe, mais sont-ce là tous tes fils? Et Isaïe répond, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et je trouvais important de lire ces quelques versets pour nous rappeler comment David est devenu roi d'Israël. Pour nous rappeler qu'il l'est devenu parce que c'était le dessein de Dieu. Parce que Dieu l'a choisi pour ça. Parce que Dieu l'a appelé. Et que l'appel à être roi, pour David, il est à l'initiative de Dieu. Et c'est la même chose dans nos vies. L'appel de Dieu est à l'initiative de Dieu. C'est bête de dire ça, mais je trouve que c'est important de se le rappeler. À quel point Dieu est à l'initiative de ce qu'il dépose dans nos cœurs, de ce qu'il veut faire dans nos vies et au travers de nos vies. Hein, Dieu, il choisit le fils d'Isaïe, c'est ce qu'on voit, hein, et l'appel qui est fait au travers de Samuel. Et David, au moment où il est oint pour être roi, parce que là c'est le cas, hein, il est oint par Samuel pour devenir roi. Vous savez quel âge il a ? Il a entre 7 et 10 ans, probablement. Je ne sais pas, ou Joël, peut-être tu as un âge plus précis que ça, mais on est autour de ça, il me semble, dans ce que j'ai pu lire. David a apparemment entre 7 et 10 ans. Est-ce que vous savez à quel âge il devient roi ? Ça, c'est écrit, donc c'est plus facile. David, il devient roi à 30 ans. Donc, il se passe, en fait, plus de 20 ans, plus de 20 années, mais c'est énorme, entre le moment où David est oint pour être roi, et où il sait qu'il va être roi, il sait de manière extrêmement précise à quoi Dieu l'a appelé, et il va se passer 20 ans avant qu'il devienne roi, effectivement, sur Israël. Et ça nous parle, ou ça doit nous parler, de comment fonctionne l'appel de Dieu dans nos vies. Je vous rappelle que Jésus, il appelle ses disciples. La première chose, c'est pour les avoir avec lui. Après, c'est pour les envoyer, mais c'est pour les avoir avec lui. Et donc, il y a besoin de ce temps, finalement, où on sait que Dieu écrit des choses dans nos cœurs, mais on a besoin de ce temps qui peut être plus ou moins long. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut 20 ans à chaque fois quand Dieu nous appelle pour quelque chose, mais qu'il y a un principe qui est quand même posé là, de regarder et de se préparer à entrer dans ces choses pour lesquelles nous sommes appelés, de s'équiper, de s'exercer, de prier pour ces choses-là. 20 ans entre le moment où David est appelé et le moment où il est vraiment roi d'Israël. Et donc pendant ces 20 ans, David, il attend fidèlement. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est sympa à voir aussi, hein, c'est que pendant ce temps-là, on sait qu'il va être appelé pour régner sur un peuple. Et en attendant, il fait quoi ? Il s'occupe d'un troupeau. Il s'exerce à être berger. Il grandit dans sa capacité à gérer quelque chose qui est devant. Il se prépare à pouvoir être roi, à pouvoir gérer de manière plus large, plus grande. On sait que David, derrière, il va combattre des armées. On sait qu'il va remporter des victoires. Et en tant que berger, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'exerce en tuant des lions, en tuant des ours. On sait que David, c'est celui qui va mettre en place la louange pour Dieu dans le temple, dans le tabernacle. C'est lui qui va être à l'initiative de tout ça. Et qu'est-ce qu'on lit de David après qu'il était oint ? On lit qu'il joue de la harpe et qu'il loue son Dieu là où personne l'écoute, là où personne le regarde, en train de veiller sur ses brebis. Et en fait, David, il n'est pas inactif dans ce temps d'attente. Et peut-être parfois dans nos propres vies, c'est un peu comme ça qu'on vit les choses. C'est-à-dire que, oui, Dieu nous parle et on reçoit des choses et on sait que Dieu veut faire des choses avec nos vies. Et puis, on attend que Dieu ouvre une porte. Et on scrute. Et on cherche en attendant que la porte, elle s'ouvre. Et il me semble que le principe qu'on voit dans la parole de Dieu, ce n'est pas celui-là. C'est que dans la mesure où Dieu nous appelle, il nous demande ensuite de nous préparer pour quelque chose. Est-ce que tu es capable de prendre soin d'un troupeau ? Oui, Alors, je pourrais te confier des choses plus grandes. Est-ce que tu es capable de combattre des lions et des ours aujourd'hui, de les terrasser à main nue? Alors oui, je pourrais te confier la victoire de mon peuple sur des armées et sur des pays ennemis pour te donner de nouveaux territoires. Est-ce que tu es capable, alors que personne ne te regarde et où tu vas en tirer aucune gloire, de me louer de tout ton cœur? Oui, alors tu vas être capable de mettre en place la louange dans le temple pour la gloire de Dieu. Vous comprenez cette dimension de l'attente qui est une attente active, une attente de préparation? Et c'est important de voir l'attente comme ça. Quand Dieu nous appelle, préparons-nous, préparons-nous. Et ensuite, on a David qui est envoyé, on a David qui est nommé roi. Et je voudrais juste, avant de parler de l'envoi de David, dire que David, il a connu les prémices de cet envoi. Quand je lis l'épisode de David contre Goliath, on a un David qui a été oint pour être roi, il a été appelé. On a un David qui n'est pas encore roi, et pourtant on a un David qui va se tenir dans une position où il va être, malgré lui, à la tête de tout un peuple, et où il va protéger son peuple. Et où est-ce qu'il va faire, armé de l'Esprit du Seigneur, il va donner la victoire à son peuple. Et David vit dans ce temps d'attente et dans ce temps de préparation où il n'est pas encore roi. Il n'a pas encore vu l'accomplissement des promesses que Dieu avait données dans sa vie, mais pourtant, il commence déjà à en voir des prémices dans sa vie. Parce qu'il s'est préparé. Parce qu'il a tué des lions. Parce qu'il savait ce que c'était que de prendre soin d'un troupeau. Alors, quand Goliath s'est levé, et qu'il a été animé de l'Esprit du Seigneur pour dire « Mais là, il y a quelque chose de pas juste par rapport à mon peuple. Là, il y a un lion qui menace mon troupeau. Je connais ça. Je me suis préparé pour ça. » Eh bien, pour ça, David, du coup, était prêt. Voilà le temps de préparation. Voilà le temps d'attente, à quoi il sert. Voilà ce qu'il fait dans nos vies. Donc, ne restons pas passifs par rapport aux choses que Dieu dit dans nos vies. Ne restons pas passifs par rapport aux multiples appels et aux multiples paroles qu'on peut recevoir. Mais préparons-nous. Préparons-nous. Nous allons vivre des prémices de ces choses-là. Et puis, nous vivrons aussi ce temps de l'envoi. Et à un moment où David, il est nommé roi. Et puis, je vais le lire ce passage aussi dans 2 Samuel 5, 1 à 5. On nous dit que toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit « Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Donc il y a un temps où David est oint dans le cadre d'un appel, et il y a un temps où David est oint dans le cadre où Dieu envoie dans le cadre de cet appel. Et c'est ce que je voudrais mettre en avant ce matin, en fait, dans comment est-ce qu'on reçoit et comment est-ce qu'on gère ce que le Seigneur dit dans nos vies. Il y a un temps où on est appelé, il y a l'appel, il y a un temps où on se prépare, et il y a un temps où Dieu nous envoie. Et souvent, on confond l'appel et l'envoi. Et on se dit, mais si le Seigneur a parlé dans ma vie, alors c'est que les portes, elles doivent être ouvertes, et alors c'est qu'il doit se passer ces choses-là maintenant. Et combien de fois on a été découragé parce que les portes n'étaient pas ouvertes? Combien de fois on a même douté de ce que le Seigneur a dit dans nos vies parce qu'on a dit « Mais attends, Seigneur, tu m'as parlé de choses et puis pourtant je ne les vois pas, et moi le premier. » Moi, le Seigneur m'a parlé sur l'écriture de chants un nombre de fois incalculable. Le Seigneur m'a parlé d'écrire des chants pour une génération, d'écrire des chants pour les nations, d'écrire des chants, de faire des écoles de louanges, etc. Les amis, est-ce que je me suis préparé comme il faut pour ça? Non. Non, clairement. Longtemps, j'ai juste attendu en disant « Mais j'attends juste que le Seigneur ouvre une porte. » Parce que je croyais qu'il fallait que le Seigneur ouvre une porte et que ce serait le moment d'y rentrer. Eh bien, j'ai demandé pardon à Dieu pour ça, clairement. Je suis pas un bon exemple là-dessus. Et les mauvais exemples, ils en témoignent aussi. Je sais que le Seigneur m'a parlé, m'a appelé à quelque chose. Et je me suis pas préparé. La vie est longue, hein. J'ai encore du temps. Je peux encore écrire des chants. Et j'en écris encore. Donc la vie est longue. Mais c'est pas parce que Dieu m'a appelé à écrire des chants, parce que Dieu m'a dit qu'il allait bénir et transformer des générations au travers de ces chants-là, que je dois m'attendre à ce que les choses se fassent toutes seules. Quelle est ma part dans tout ça? Comment je me prépare? Si j'écris pas les chants, si je les enregistre pas, si je les publie pas, comment est-ce qu'ils vont toucher une génération? Si je les écris pas déjà, comment ils vont toucher une génération? Et si je les publie pas, comment est-ce qu'ils vont toucher? Donc j'ai ma part à faire là-dedans. Et la part de Dieu, c'est qu'à un moment donné, quand je suis prêt, quand il estime que je suis prêt pour ça, une porte s'ouvre. Et il y a une dimension d'impact qui vient là sur ces chants, qui n'est pas juste le fait que « waouh, mes chants sont super », c'est que Dieu a choisi de faire quelque chose au travers de ça. Donc préparons-nous. Il y a besoin de se préparer, sinon il y a un nombre de choses que Dieu, qu'on va entendre, où on sait que Dieu nous appelle pour des choses et qui vont juste rester stériles. Pierre a parlé de tout à l'heure, hein, pour Genève, de coups qui tombent dans l'eau. Mais oui, des fois, il y a des coups qui tombent dans l'eau. Et combien de fois dans nos vies, c'est le cas? On a des coups qui tombent dans l'eau. Eh bien, préparons-nous pour que ces coups ne tombent plus dans l'eau. Préparons-nous pour qu'on voie du fruit. Amen. Merci pour ce amen très spontané. Préparons-nous pour voir du fruit. Et je vous rappelle les prémices. David, il n'y a pas eu besoin que David soit roi pour commencer à voir des choses juste incroyables de ce que Dieu pouvait faire avec David. C'est la même chose dans nos vies. Et on pourrait regarder aussi la vie de Joseph et de combien d'autres. Hein. Joseph, Dieu lui a parlé très très jeune. Il a commencé à avoir des rêves sur ce que Dieu allait faire avec lui. Donc depuis le départ, il savait ce qui allait se passer. Et il se passe quoi derrière? Il est jeté dans une citerne, abandonné par ses frères, trahi, vendu comme esclave, mis en prison. Elle est où la victoire de Dieu là-dedans? Elle est où la porte ouverte de l'envoi dans ce que Dieu l'a appelé à être? Est-ce que Dieu a menti? Est-ce que Dieu s'est trompé? Ou est-ce qu'on est juste dans le temps où Joseph est en train d'être préparé pour être envoyé? Et c'est ce qui se passe. Joseph sait qu'il a été appelé, mais Joseph a besoin d'être préparé pour pouvoir être envoyé selon ce que Dieu décide. C'est lui qui est aux commandes. Et on doit soumettre à sa volonté dans nos vies quand il est question de cet appel. On ne peut pas juste saisir l'appel de Dieu et dire « c'est bon, je sais ce que le Seigneur il veut faire avec ma vie et donc moi, je vais ouvrir les portes et je vais y aller plein de foi, plein de zèle ». Et des fois, c'est un sentiment qui est complètement honorable de vouloir y aller parce qu'on a un zèle, parce qu'on a une fougue, parce qu'on a une passion. Peut-être qu'à ce moment-là, il nous manque juste la sagesse de Dieu. De dire « ok Seigneur, est-ce que vraiment c'est le temps maintenant parce que tu m'as appelé et que je vois qu'en fait, ben oui, la porte elle est ouverte en même temps. Et alléluia, gloire à Dieu, des fois ça se passe comme ça. Mais on doit aussi avoir cette sagesse de discerner que peut-être c'est pas le temps d'y aller maintenant. Parce que peut-être ça va être le temps d'être mis en prison, peut-être ça va être le temps d'être vendu comme esclave, peut-être ça va être le temps de juste s'occuper d'un troupeau ou de battre des lions à main nue. Peut-être que ce sera le temps de louer Dieu simplement tout seul. Avant de conduire la louange de tout un peuple, avant de ramener la présence de Dieu au milieu d'un peuple. Alors peut-être on se dit, ok, c'est bon pour David, c'est bon pour Joseph, c'est bon pour ces grandes figures christiques hein, qui pointent vers ce que Christ est. Eh bien, regardez comment ça se passe avec les disciples. Je vous rappelle, hein, il appela ceux qu'il voulait. Et je voulais juste lire ce passage de Marc Jésus appelle André et Pierre à devenir pêcheurs d'hommes. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, donc c'est Jésus, hein, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Jésus appelle et les disciples répondent aussitôt à son appel. Ils ne se posent pas de questions. Est-ce que ça veut dire que là, ils courent Comme vous savez, quand on coupe la tête à un poulet là, et qu'il continue de courir pendant quelques mètres dans une direction qu'on ne sait pas, non. Ils répondent simplement à l'appel. Ils ont compris que Jésus était en train de les appeler et que le temps de préparation de Jésus, c'était pour les avoir avec lui. Et c'est ce qui se passe pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ils vont rester avec Jésus. Pendant 3 ans, ils vont suivre Jésus. Pendant 3 ans, ils vont voir les miracles que Jésus fait. Ils vont être au bénéfice de ce que Jésus enseigne. Ils vont même comprendre d'une manière plus précise ce que Jésus est en train d'enseigner, parce que des fois, il enseigne en parabole au peuple, mais il va expliquer à ses disciples qu'est-ce que ces paraboles veulent dire. Pendant 3 ans, ils sont avec lui, tous les jours, en train d'apprendre du Maître. Ils sont dans ce temps de préparation. Ils ont déjà répondu à l'appel. Ils ont déjà tout laissé pour suivre Jésus. Et Jésus leur annonce ce qui va se passer après. Mais ils sont là, avec lui, attachés à lui, en train de le suivre, en train de chercher à apprendre, en train de se préparer. Et puis, ils vivent aussi les prémices, comme on l'a dit avec David. Ils vivent les prémices de l'envoi. Hein, dans Marc 6, versets 7 et puis 12 et 13, Jésus, il appelle les 12 et il commence à les envoyer 2 à 2 en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Et Jésus n'était pas encore mort sur la croix. Et on ne pouvait pas encore annoncer l'évangile d'un Christ mort et ressuscité. Mais ils commençaient déjà, parce qu'ils étaient avec Jésus, et parce qu'ils étaient dans ce temps de préparation, et parce qu'ils avaient accepté de tout quitter pour faire ce que ce maître-là voulait dire. Ils reconnaissaient déjà le Messie en Christ. Alors, dans ce temps de préparation, Dieu leur donne cette grâce de commencer à exercer et de voir ce qui va se passer ensuite. Et le temps de préparation, ça nous rappelle qu'il n'est pas stérile, encore une fois, comme je disais tout à l'heure. On n'est pas assis en train d'attendre passivement ce que Dieu va faire. On se prépare, et même dans ce temps de préparation, il y a des victoires. Il y a des choses incroyables qui peuvent se passer. Et ensuite, Jésus envoie Matthieu 28, 19 et 20, qui est un envoi pour les disciples, et puis pour nous, au travers de ces disciples-là, quand il leur dit « Allez ». Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voilà l'envoi. Il est là, quand Jésus part, et puis qu'il leur promet le Consolateur, et qu'il leur promet l'Esprit qui va être avec eux, et de la manière dont Jésus va être avec eux tous les jours, et tout ce qu'ils vont pouvoir faire derrière. Et ensuite, on a quoi? Tout le livre des Actes. Jusqu'au dernier chapitre. Et puis, il y a acte 5024, acte, c'est qui? C'est le gars des c'est José Lessieux, je crois, des Gédéons, hein, qui nous faisait ça. Il rajoutait des chapitres à actes pour tout ce qui se passait aujourd'hui, pour tout ce que Dieu fait avec nous. Et c'est tellement vrai, le livre des actes n'est jamais fini, finalement. Parce qu'on est appelé à ça, parce qu'on est préparé pour ça, et parce que Dieu nous envoie pour ça. Est-ce que ça veut dire, je vais juste faire un point là-dessus, qu'on marche toujours de victoire en victoire? Est-ce que ça veut dire qu'au moment où Dieu appelle, derrière cette victoire, en victoire, parce qu'on est sur le bon chemin, parce qu'on est dans le temps de la préparation, parce qu'on a répondu de manière juste, est-ce que derrière les choses doivent se passer forcément dans le bon sens? Vous avez bien compris la manière dont je pose la question, que la réponse n'est pas oui. Que ce soit dans le temps où on se prépare ou que ce soit après qu'on ait été envoyé, hein. Ou alors que ce soit parce qu'on tombe, ou que ce soit parce qu'on a des épreuves, la réponse est non, on ne marche pas forcément de victoire en victoire, et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le temps de ce que Dieu est en train de faire avec nous. Et ça ne veut pas dire que Dieu, mince, il s'est fait avoir. Il va falloir qu'il rattrape ça dans nos vies, non. Dieu est en contrôle de tout, et il fait ce qu'il veut comme il veut. Est-ce que c'était en dehors du plan de Dieu que Joseph soit mis dans une citerne, vendu comme esclave, mis en prison? C'était le temps de préparation de Joseph. C'était pas le même temps de préparation pour David. Et encore, David, c'était pas simple non plus, même après. Par contre, il y a des temps où effectivement on peut tomber. Et il y a un moment où David, après qu'il était envoyé, il va pas à la guerre. Il choisit d'envoyer son peuple. Lui, il y va pas. Et il est pas en train de combattre dans ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il n'était pas dans sa position à laquelle Dieu l'avait appelé à ce moment-là. il en est sorti. Et alors qu'il n'était pas au combat, qu'est-ce qui se passe? Ben, il a tout le temps pour être oisif dans son palais. Puis depuis son palais, il a tout le temps pour voir qu'en bas, en contrebas, il y a une femme magnifique qui est en train de prendre sa douche. Et puis il a tout le temps, du coup, pour l'inviter chez lui, dans son palais, ben, parce que son mari, de toute façon, il est au combat. Donc il peut l'inviter. Et puis elle, si c'est le roi qui l'invite, elle n'a pas le loisir de refuser. Et puis, il avait tout le temps, du coup, pour l'inviter dans son lit. Il avait tout le temps pour la mettre enceinte. Et ensuite, il a fait tuer son mari. Parce qu'il avait choisi d'abandonner ce pourquoi il était appelé. Il avait choisi d'abandonner quelque part la position de ce à quoi Dieu l'avait vraiment appelé. Il s'était détourné de ça, il est tombé. Or oui, c'est un épisode qui est absolument tragique. Mais le point que je voudrais faire ce matin, c'est est-ce que ça veut dire que cet échec-là, il arrête tout? Est-ce que cet échec-là, alors que c'est David hein, qui est tombé, est-ce que ça veut dire qu'il était plus digne ou légitime d'être dans le plan de Dieu pour sa vie? D'être dans ce à quoi Dieu l'avait appelé et ensuite envoyé? Non, la grâce de Dieu, les amis, qu'est-ce qu'elle est agissante? Qu'est-ce qu'elle est grande, malgré l'échec? Cette femme, elle s'appelle Bathsheba. Et de cette union est né Salomon. Dieu est plein de grâce. David s'est repenti. Dieu a relevé David. Et il y a un héritage au travers de cette union. Alors que pourtant, c'était un échec. Dieu le transforme pour sa gloire. Et il fait la même chose dans nos vies. Il transforme nos échecs. On a parlé de Joseph tout à l'heure. Là, on n'a pas un Joseph qui tombe. On a un Joseph qui subit. Il subit l'épreuve, il subit la méchanceté, il subit l'injustice, il subit des choses abominables. Est-ce que tout ça veut dire que Dieu est absent de l'histoire? Est-ce que tout ça veut dire que Dieu n'est pas en contrôle de ce qui se passe? Non, Dieu était en train de le préparer. Et la grâce de Dieu, c'est qu'au travers de tout ça, Dieu l'élève. Dieu l'élève comme le second d'Égypte, celui au travers duquel il va sauver toute sa famille. Et les disciples, pensez au reniement de Pierre. Jésus lui avait annoncé en plus, hein, donc il le savait quelque part quand ça s'est présenté, il aurait pu dire, hein, ouh, je le savais, donc merci Seigneur, tu m'avais donné les clés pour ne pas tomber là-dedans. Mais non, Pierre renie Jésus. Et encore une fois, malgré cet échec, est-ce que ça le disqualifie pour ce à quoi Dieu l'a appelé? Non, la grâce de Dieu, c'est que quand il se retrouve à nouveau devant Jésus, qu'est-ce que Jésus lui dit? Comme il l'a dit pour David, « Paix mes brebis, tu vas paître mon troupeau. Je te relève, je te restaure dans ce pourquoi je t'ai appelé, parce que ma grâce est agissante dans ta vie. » Et il me semblait important de parler aussi de cette dimension d'échec quand on parle de l'appel de Dieu sur nos vies. Parce que combien de fois on y est confronté? Je vous en ai partagé un tout à l'heure, de dire aujourd'hui « Je ne vois pas les fruits de ce à quoi Dieu m'a appelé », en partie parce que je ne me suis pas préparé comme il faut pour ça. Est-ce que ça veut dire que je suis disqualifié? Non, Seigneur, ta grâce, elle est grande. Ta grâce, elle est grande. Et si j'apprends de ces erreurs-là, et si je me repens devant Dieu, Dieu restaure, Dieu rétablit. Et Dieu envoie à nouveau. Amen. Amen. Matthieu 9, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Prions que le Seigneur nous envoie. Prions que le Seigneur nous envoie. Prions que le Seigneur nous appelle. J'ai envie de dire en premier. Prions que le Seigneur nous appelle. Est-ce que certains au milieu de nous ne savent pas à quoi Dieu les appelle dans leur vie? Et je ne parle pas que du... Parce que des fois, derrière la notion de l'appel, on y met le grand appel, en fait, hein, de toute une vie. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec ma vie? Ben, il veut que tu sois un disciple, il veut que tu loues le Seigneur, il veut que tu annonces l'évangile sur toute la terre, que tu guérisses les malades, que tu chasses les démons. Voilà ce que le Seigneur il veut faire avec ta vie. Je vous ai appelé au nom du Seigneur. C'est ce qu'il nous a demandé de faire, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour faire des disciples partout, pour accrocher les gens à Jésus et pour que sur toute la terre, on célèbre la gloire de Dieu. Voilà l'appel Mais il y a aussi dans nos vies des appels plus spécifiques, plus particuliers. Dieu va peut-être nous mettre à cœur à un moment donné d'aller ouvrir un orphelinat quelque part parce qu'on a vraiment ça à cœur. Il va nous parler sur le fait de tout quitter pour changer de nation ou pour changer de ville tout simplement, pour aller à l'autre bout de la France. Peut-être qu'il va nous demander de créer un projet d'une école chrétienne ici alors qu'il n'y a rien, alors que c'est difficile, alors que tout semble contre. Peut-être qu'il va nous demander d'aller visiter les réfugiés qui sont au Prada. Combien d'autres projets? De donner une douche à ceux qui n'ont rien. D'acheter un camion, de l'équiper avec une douche et de traverser tout Nîmes pour offrir une douche et un peu de dignité à ceux qui n'ont rien. Combien de projets comme ça? Combien de choses pour lesquelles Dieu nous appelle de manière précise, particulière dans nos vies? Et peut-être que Dieu ne vous a pas forcément parlé par rapport à ça aujourd'hui. Et si c'est le cas, j'aimerais vraiment qu'on puisse prier par rapport à ça. J'aimerais vraiment que vous puissiez dire, moi j'ai besoin d'entendre. C'est d'abord une réflexion personnelle et c'est d'abord une question personnelle entre soi et Dieu. Mais on a aussi besoin des frères et sœurs qui peuvent parler les uns sur les autres. Et j'aimerais vraiment inviter à la fin de ce culte, s'il y en a qui ont besoin dans cette dimension particulière, osez demander. Osez demander, Seigneur, est-ce que tu m'appelles d'une manière particulière ? Dans la saison dans laquelle je suis dans ma vie, à faire quelque chose de particulier, au-delà du grand appel que je saisis déjà. Ensuite, il y a la question, si vous savez que Dieu a déjà parlé dans vos vies, la question que je nous pose derrière, c'est et quid de cette préparation? On en est où? Comment on se prépare? Comment on exerce nos armes? Comment on prie pour ça, pour que le Seigneur envoie dans la moisson? Comment est-ce que comment est-ce qu'on tue des lions et des ours à main nue aujourd'hui avant de battre des armées demain? Comment est-ce qu'on se prépare par rapport à ça? Et je crois que là aussi, c'est vraiment un temps dans lequel on peut juste se mettre devant Dieu et dire « Ok Seigneur, j'ai vraiment pas envie de rester assis et d'attendre que tu ouvres la porte. J'ai envie de me préparer de la bonne manière pour ce à quoi tu m'appelles. » Et là, je nous inviterai peut-être à prier dans ce sens-là aussi pour ceux que ça concerne. Peut-être certains d'entre vous, vous avez l'impression de vous préparer depuis longtemps. Vous avez l'impression déjà être là dans les starting blocks, mais Seigneur, mais je suis prêt, ça fait un moment que j'attends. Peut-être qu'on a besoin d'audace et de pas de foi. Hein, des fois, on a le sentiment que pour traverser le gouffre, il faudrait que Dieu ait bâti un beau pont en pierre. Alors que c'est un peu comme dans Indiana Jones, vous savez, ce pont de la foi où on voit rien, mais il est obligé du coup de faire un pas dans le vide, et c'est à ce moment-là que le pont il apparaît. Et des fois, ça se passe un peu comme ça dans nos vies chrétiennes. Et on sait que Dieu nous a appelé à quelque chose, on sait qu'on s'est préparé pour ça, mais pourtant, eh ben, ça demande un pas de foi. Ça demande d'être audacieux dans le fait de dire, et c'est pas présomptueux, de dire « Seigneur, j'ai l'impression que je suis prêt aujourd'hui, et je veux vraiment prier » pour que la porte s'ouvre maintenant. Je veux vraiment prier, je vais me mettre à l'œuvre pour voir du fruit au travers de ce à quoi tu m'as appelé. Et je vais choisir d'acheter un camion et de l'équiper pour une douche, et pas juste d'attendre que quelqu'un m'offre un camion qui est déjà tout équipé avec le nom de l'association dessus. Préparons-nous et soyons audacieux. Et peut-être que ce matin, on est quelques-uns à devoir faire ces prières de foi, ces prières audacieuses, de dire « Seigneur, je sens que là, j'ai besoin de me bouger. Tu m'as déjà parlé, tu m'as déjà préparé, Seigneur. Là, maintenant, c'est à moi de me bouger et c'est à moi d'aller et c'est à moi d'avancer. » Vous êtes avec moi? Donc voilà, j'aimerais vraiment finir ce message en priant pour ces choses-là, si vous êtes OK. Donc je vous invite juste à ce qu'on puisse prier pour ces différentes saisons. Cette saison de l'appel, cette saison de la préparation, cette saison de l'envoi. Et je voudrais prier par rapport à ça. Et si ça fait écho dans vos cœurs, de vraiment prier avec moi dans ces domaines-là. Ok, vous pouvez rester assis, vous pouvez vous lever, vous pouvez sauter sur vos chaises, comme vous l'avez à cœur. Ouais, Seigneur. Merci pour ce que tu fais de manière parfaite, Seigneur. Dans toute l'histoire, on l'a dit ce matin, Seigneur, mais aussi dans nos propres vies, Seigneur. y compris, et on l'a dit, malgré nos échecs, Seigneur, malgré les fois où on tombe, Seigneur, malgré les épreuves qu'on peut subir dans nos vies, Seigneur, on sait que tu écris quelque chose d'absolument parfait, Seigneur, selon ta volonté, parce que ta volonté s'exerce du début jusqu'à la fin, Seigneur, y compris dans nos vies. Père, je te prie ce matin pour ceux qui ne savent pas si tu les appelles à quelque chose de particulier, Père, je prie que tu répondes aux questions ce matin. Je prie que tu répondes aux demandes, que tu répondes aux prières qui sont formulées dans les cœurs ou qui vont être formulées à voix haute, Seigneur, aussi dans le secret de la chambre de chacun, Seigneur. De dire, mais Seigneur, à quoi tu m'appelles ? Seigneur, je prie que tu répondes. Je prie que tu fasses connaître ta volonté, Seigneur. Je prie que tu honores cette recherche de, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec ma vie ? Honore, Seigneur, en répondant, envoie des frères et sœurs qui sont capables de parler de ta part, Seigneur, les uns aux autres. On veut vraiment, les uns et les autres, entendre ta voix, Seigneur, et connaître qu'est-ce que tu as décidé de faire au travers de chacune de nos vies, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui parle et que tu vas parler encore, Seigneur. Honore cette démarche de recherche et parle, Seigneur, à ceux qui te le demandent maintenant, Seigneur. Je te prie pour ceux que tu as appelés, Seigneur, ceux à qui tu as déjà confié une vision particulière pour quelque chose, Seigneur, au-delà de ce grand appel que tu nous as tous donné, Seigneur, eh bien, je prie pour ce temps de préparation, Seigneur. Et dans ce temps de préparation, je te prie pour de la sagesse de discerner le temps, Seigneur, la sagesse de voir quel est le moment, Seigneur, comment se préparer. Je te prie aussi pour de la persévérance dans ce temps-là, Seigneur, la persévérance de continuer à s'exercer, de continuer à prier avec foi, inlassablement, Seigneur, pour ce que tu vas faire, de continuer à chercher à avoir des premières victoires et ces prémices, Seigneur, de ce à quoi tu nous envoies dans nos vies, Seigneur. Je prie pour toutes ces choses-là, Seigneur. Merci d'être à l'œuvre et d'accompagner pour ceux qui s'exercent en ce moment, Seigneur, dans quelque chose de particulier. Et enfin, Père, je te prie pour ceux qui se sentent prêts aujourd'hui, Seigneur, ceux qui se sont préparés depuis un moment déjà, Seigneur, ceux pour qui c'est une évidence que tu as parlé dans leur vie, Seigneur, et qu'aujourd'hui tu demandes un pas de foi, Seigneur. Je prie pour que tu rendes capable de faire ce pas de foi, Seigneur. On se souvient que ta parole, elle nous dit que la foi, elle vient de toi, que c'est un don de ta grâce, Seigneur. Et je prie pour ce don de foi dans la vie des personnes concernées, Seigneur. Rends capable d'audace, Seigneur, à cause de la foi que tu places dans les cœurs, de traverser une porte, Seigneur, que d'autres pourraient considérer fermée, mais que par la foi, nous voyons ouverte, Seigneur, pour aller. Merci, Père, pour ce que tu fais avec nos vies et au travers de toutes ces choses-là, Seigneur. On veut juste se souvenir qu'on rend gloire à ton nom, Seigneur, et qu'on te rend toute gloire, Père, et qu'au travers de tout ce qu'on fait de manière complètement imparfaite, Seigneur, tu en tires toute la gloire. C'est vraiment le désir de nos cœurs, Seigneur, que toutes nos vies célèbrent qui tu es, ce que tu fais, et chantent ta gloire, et servent à ton royaume, Seigneur. Amen. Amen. Amen.